Voilà, je vais commencer par un geste prophétique ce matin. Vous avez entendu? C'est quoi un geste prophétique? Non, non, c'est pas ça. Je vais ouvrir la fenêtre. Oups là. Ouh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. Il y a plein de choses. Il faut ouvrir votre fenêtre ce matin. C'est ça un geste prophétique. Ça annonce quelque chose à venir. Hein? Voilà. Et parfois, on vient ici dans l'église, un culte de plus, une belle matinée de plus, à la fin de la semaine, on chante des beaux chants, on retourne à la maison. Est-ce que l'air frais de l'évangile, est-ce que l'air frais de la parole de Dieu a trouvé un endroit pour rentrer en nous? On ressort d'ici, rien n'a changé? Jésus a payé le prix pour que tout change dans nos vies. J'aimerais que vous l'entendiez encore une fois ce matin. Jésus a payé le prix pour que tout change. Lui, il ne vient pas juste changer quelques pièces du moteur. Il vient tout changer. Il vient tout changer pour qu'on puisse aller à la rencontre de sa volonté. Qu'on puisse entrer dans la plénitude de la foi. Pas dans une foi élémentaire, basique. Jésus a payé un grand prix pour cela. Et c'est un immense privilège que de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, de pouvoir méditer ce qu'il a à nous dire pour avoir un chemin ouvert devant nos pas. Souvent, je rencontre des chrétiens qui tournent en rond, pas parce qu'ils ont fait exprès. On ne fait jamais exprès de tourner en rond, je ne crois pas. Mais il y a des circonstances qui font qu'à un moment donné, tout d'un coup, voilà, on n'arrive plus à avancer. Ben, l'Évangile est encore là. Le Seigneur est encore là pour nous redonner le bon sens, pour nous redonner la force, pour nous redonner le courage, pour nous redonner un horizon devant nous. Amen. Alors, on a vu depuis quatre dimanches déjà maintenant, on s'est arrêté sur le thème du péché. On a l'impression qu'on a tout compris sur le péché. Parce qu'un jour dans sa vie, voilà, on nous a dit « t'es un pécheur, il faut te repentir, puis tu deviens chrétien et tout va bien ». Puis c'est ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Puis on voit qu'effectivement, oui, ça joue en partie, mais qu'en partie souvent. Moi, je suis étonné en tant que pasteur, lorsque je vais faire certaines visites, et que j'entends la personne en face de moi qui a déjà plusieurs années de vie chrétienne, je me dis, ouh là 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 là, il manque des pans entiers de murs. Et on s'étonne que la construction est si fragile. Au moindre coup de vent, tout est ébranlé et il faut recommencer à zéro. Il faut tout remettre en place dans la maison parce que, voilà, c'est la chute. Et moi, je ne crois pas à cela. Moi, je ne crois pas à cela. Je crois que le Seigneur a aussi donné sa vie pour que ma vie soit, encore une fois, je ne veux pas pousser à l'extrême, mais elle soit en constante progression. On peut avoir dans sa vie des moments de fragilité, on peut passer par des maladies, on peut passer par des situations qui effectivement nous freinent dans notre course. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions avancer, croître, grandir jusqu'à toute la plénitude, porter le fruit qui est espéré par le Seigneur. Et on a vu que le péché était l'obstacle majeur dans nos vies, dans ce monde, dans l'humanité, même dans le cosmos. Paul parle du cosmos, ça veut dire que le péché, lorsqu'il est entré dans la réalité de l'humanité, il a touché aussi le cosmos. Tout a été ébranlé, tout a été mis dans le sens contraire voulu par Dieu. Et on a vu que le péché était l'arme de destruction massive par excellence. Aujourd'hui, des millions et des millions et des dizaines de millions de personnes sont mal dans leur peau parce qu'ils ne se sont pas occupés du péché dans leur vie. Aujourd'hui, on fait des grandes rencontres mondiales pour la paix, on fait des grandes rencontres mondiales pour les réfugiés, mais on ferait mieux de faire une fois une grande rencontre mondiale sur le péché. Et se poser la question une fois en regardant le péché en face, qu'est-ce qu'on a fait pour être dans cet état-là? Qu'est-ce qu'on a fait pour être dans cet état-là? Et ça, on peut le prendre en compte pour notre propre vie, dans mon petit monde à moi, dans mon petit cosmos à moi, dans mon petit univers à moi. Mais on peut le voir globalement pour le monde entier. Parce que la parole de Dieu nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et on voit que le péché a complètement avili l'être humain. La présence même de Dieu, l'image même de Dieu nous a quittés. Et on se retrouve face à notre miroir. Et on fait semblant que quand même tout va bien, qu'on n'est pas si mauvais, qu'on n'est pas si méchant que ça. Mais quand on voit ce qui se passe dans notre monde et parfois même dans notre vie, Moi, je ne sais pas comment ce qu'on fait pour douter encore de notre état de péché. Alors, ce qu'on a vu dès le départ, et je m'excuse de me répéter peut-être pour certains, mais pour ceux qui sont là pour la première fois, il faut quand même il faut qu'ils sachent de quoi on parle. On a vu que dès le début de l'histoire du péché dans l'humanité, Dieu n'est pas si loin que cela des hommes. Et on a vu dans l'histoire de Caïn et Abel, où à un moment donné, Caïn fait faux. Ok, il a fait faux, mais Dieu n'est pas en train de l'écraser parce qu'il a fait faux. Au contraire, il lui donne de bons conseils. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Caïn, ce qui était là les quatre dernières fois. Le péché couche à ta porte, Caïn. Mettez votre prénom à la place de Caïn. Le péché couche à ta porte, Alain. Mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Vous vous rendez compte de la puissance de ce mot ? Vous le savez, quand quelqu'un domine sur vous, vous savez ce que ça produit, n'est-ce pas, dans votre vie ? Quand il y a un dominateur dans un pays, on sait les conséquences qui en découlent. On voit ce qui se passe dans certains pays, en Corée du Nord notamment, ou ailleurs. Quand il y a un dominateur, on ne vit pas. Mais là, Dieu nous donne une parole d'espérance extraordinaire. Et Caïn aurait eu vraiment l'opportunité à ce moment-là de dire « Quoi ? Tu me dis que je peux dominer sur le péché ? Waouh, super ! Alors, montre-moi comment. » Au lieu de cela, il endurcit son cœur et il va tuer son frère Abel. Voyez ? Ça s'est joué à peu. Ça se joue à peu dans nos vies. Il faut peu de choses parfois pour que, n'est-ce pas ? Et nous voulons rester sur cette vision-là, cette pensée-là, cette perspective-là. Alors, comment on fait pour dominer le péché ? Est-ce que vous êtes sûr de savoir comment ce qu'on fait pour dominer le péché ? Et c'est ce qu'on essaye de découvrir. Alors, vous avez certainement déjà des bribes de réponses. Peut-être que certains ont trouvé là où les clés. Mais certains sont en train de se demander, mais comment est-ce que je vais me débarrasser du péché ? Comment est-ce que je vais faire pour que ça cesse, pour que cette domination cesse une fois pour toutes dans ma vie ? D'accord ? Ça vous intéresse ? On va un peu plus loin ? Alors, on a défini le péché. Le péché, c'est une puissance. C'est une puissance qui agit dans ce monde, une puissance active. Elle est là, elle est présente et elle agit. Elle agit pour nous maintenir séparés de la gloire de Dieu. On a tout essayé, on a essayé toutes sortes de religions. On a créé des religions, on a créé des philosophies, on a créé plein de choses pour essayer de trouver une solution au péché. Mais ni les hommes politiques, ni les scientifiques, ni les philosophes, personne n'a trouvé de réponse. Et on est là en face de cette réalité. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On la met sous le tapis, comme si elle n'existait pas. Ah, le péché, il est là, mais bon, arrêtez avec votre mot péché. D'ailleurs, ça ne fait plus partie du vocabulaire commun. Vous avez déjà entendu, les 10 dernières années, mais l'année passée, quelqu'un vous parlait du péché ? Vous avez déjà entendu quelqu'un, à part les chrétiens, parler du péché ? Moi, j'entends personne parler du péché. Vous avez déjà vu un article de journal parler du péché ? Jamais ! Des conséquences du péché, plein les pages, plein la télévision, tous les jours vous voyez les conséquences du péché. Mais on ne parle pas du péché. Mais c'est une puissance qui nous tient sous la domination et qui nous tient dans la mort spirituelle. Est-ce que vous avez compris la mort spirituelle ? Pas seulement un léger knockdown, comme on dit, où on est un petit peu estourbi. Non, la Bible nous dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que vous avez mis ce mot devant vous un jour, devant vos yeux ? La mort, c'est la mort. Vous ne bougez plus, vous ne pensez plus, vous n'êtes plus rien. Et c'est ce qui se passe vis-à-vis de Dieu. La grande majorité de nos contemporains sont encore morts spirituellement. Ils ne pensent pas à Dieu, ils ne vivent pas pour Dieu. Dieu ne fait pas partie de leur réalité. Et il y a 41 ans de ma vie, Dieu ne faisait pas partie de la réalité de ma vie. Mais maintenant, il en fait partie. Et j'ai vu ce qu'il a fait pendant 41 années de ma vie. J'ai dit, j'arrive bientôt au bout de mon marathon, 42 kilomètres. Waouh, encore un kilomètre. Allez, mon gars, on se tient là, hein ? Ok. Alors le problème, qu'est-ce que tu vas faire avec ton péché ? Pas seulement les péchés que tu commets, mais la fabrique de péchés qui est en toi, ta nature corrompue, ma nature corrompue. Qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais la vendre aux enchères ? Ouf ! Je vais la prêter ? Je vais essayer de la badigeonner, de la peinture blanche. Qu'est-ce que je vais faire avec ma nature de péché ? Là aussi, personne n'a la réponse. Personne dans l'univers, personne dans ce monde n'a la réponse, à part Dieu. Et c'est ce que nous avons vu dimanche passé. Ou il y a deux semaines, je ne sais plus. Je suis un peu perdu. Dans... Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il y a une personne qui m'a écouté il y a deux semaines. Bien sûr que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la loi. Parce que sans la loi, tu ne saurais même pas que tu es pécheur. Sans la loi, je ne saurais même pas que je suis séparé de Dieu et que je suis un être pécheur. Donc avant de donner son Fils, il va donner le moyen qui nous permet de prendre conscience de ma réalité. Et c'est très intéressant ce qui s'est passé ce matin, vous verrez pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a dit d'abord Jean 3,16 plutôt que de dire « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la loi » Pourquoi on dit ça? Vous verrez dans quelques instants. Merci. Donc ce matin, ce que nous voulons faire, c'est comprendre l'importance de l'œuvre de la loi dans chacune de nos vies et dans ce monde. Si je ne comprends pas quelle est l'œuvre de la loi de Dieu, bien sûr, hein, on va peut-être projeter le premier dia qu'il y a là. Si je ne comprends pas que Dieu m'a aimé au point de me donner une loi et que cette loi va maintenant révéler mon péché, je ne suis pas prêt à entrer dans la grâce. Ou je suis mal préparé. Ou je vais entrer dans la grâce à moitié. Je vais pas vraiment la comprendre. Vous savez, quand quelqu'un est condamné à passer, 15, 20 ans de prison, il sait ce que c'est, hein. Dans la cellule, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a un lit, peut-être même pas des draps, parce qu'il y en a des qui se pendent avec les draps, je ne sais pas comment ils font, enfin voilà. Il y a vraiment le minimum vital. Et quand tout d'un coup, il apprend que le jour de son acquittement a sonné, je l'avais dit la dernière fois, quand le président de la République française, le nouveau président de la République française, arrive au pouvoir, il a le droit de gracier et de dire à un prisonnier, « Mon gars, je t'ouvre la porte et tu sors. » Mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va se réjouir du petit verre d'eau qu'il va recevoir, d'une pomme, d'une orange, d'un magnifique paysage, d'un coucher de soleil. Il va se réjouir du minimum. Mais celui qui n'a pas été condamné, celui qui n'a pas vécu en prison, il s'habitue de tout. Et on s'habitue de tout aujourd'hui. On est des enfants gâtés. On a tout. On presse sur des boutons, il y a tout qui vient aujourd'hui. On n'a plus à s'efforcer de quoi que ce soit. On n'a plus à transpirer comme nos aïeux à l'époque. Donc, je crois qu'il est absolument vital et important de comprendre le processus dans lequel Dieu veut nous entraîner pour faire juste. Je vous rappelle qu'il s'agit à un moment donné de comprendre comment dominer le péché. Donc, ce n'est pas rien. C'est absolument primordial. C'est une question à 100 milliards. Tellement elle est importante. Alors, l'œuvre de la loi. D'abord, j'aimerais vous rappeler, parce que là, je suis en train de parler en fait à deux parties de vous-même, ce qui est un peu compliqué hein, parfois. Il y a une partie qui se sent assurée, c'est-à-dire que oui, je suis chrétien, oui, je suis sauvé, j'ai été baptisé, je vais à l'église de réveil, on a prié pour moi, j'ai vécu toutes sortes d'expériences, ok. Et puis, il y a ceux qui sont peut-être comme ça un peu entre deux, on ne sait pas trop. Oh, je suis né d'une famille chrétienne, donc je suis chrétien. Non, mais je ne suis pas vraiment chrétien. Je suis peut-être catholique, mais non, ouais, peut-être je suis protestant, mais je n'ai jamais été à l'église. Hein, mais alors, mes parents étaient protestants. Mon grand-papa, ma grand-mère, ils allaient souvent à l'église. Hein. Vous voyez un petit peu la confusion. On ne sait plus trop où on en est, surtout dans un monde quand même religieux, où on garde quelques principes. Mais on ne sait pas vraiment dans quelle étape est-ce que je suis par rapport au processus qui doit me conduire de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. Est-ce qu'on a juste à presser sur un bouton et c'est fait. Oh là là, j'étais dans les ténèbres, je suis dans la lumière. J'étais mort, je suis vivant. Moi, je crois que Dieu, qui est un sage architecte, il sait mettre les choses à leur place. Et en principe, le mieux, ça serait de passer par le processus que Dieu nous donne de vivre. Autrement, on risque tout d'un coup d'être étonné, de se dire, c'est pas comme j'avais imaginé, hein. C'est pas tout à fait ça, hein. C'est pas ce qu'on m'avait dit là. Hein. D'accord? Bon. Alors il est dit d'abord que Dieu veut que nous soyons des ouvriers avec lui. Hein. Dans 1 Corinthiens 3, 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Qui est ouvrier ici? Levez la main. Vous êtes tous au chômage, les autres. Employés, ouvriers, voilà. Hein, voilà, ben voilà, mais il faut dire, hein, quand même, hein, voilà. Ouais, bon. Donc, qu'est-ce que vous faites le lundi matin quand vous arrivez à l'usine ou à votre, dans votre entreprise? Vous travaillez avec votre patron, d'accord? Vous ne faites pas vos petits trucs dans votre coin là, en disant, bon, voilà, hein, d'accord. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il est dit dans 2 Corinthiens 6, 1, nous travaillons avec Dieu. Et dans Luc 19, 17, viens, bon et fidèle serviteur. J'ai servi à quelque chose. Que ce soit pour nos vies ou pour celles des autres, peu importe. On est appelé à cela à un moment donné. Donc, nous devons respecter les étapes que Dieu veut nous faire passer pour qu'on arrive au bon endroit, pour que ce qui nous a été promis soit la réalité. Le monde nous fait des promesses mirobolantes, puis quand on arrive, on se dit, peu cher, mais ce n'est pas ce qu'on m'a promis. Ce n'est pas ça du tout. Vous avez déjà vu les gens qui vont sur Internet, qui voient une magnifique villa avec piscine au bord de la mer, du voilà, là, 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 hop, ils signent, ils payent, et hop, ils arrivent là avec leur valise, et puis la maison elle est en construction. C'est déjà arrivé, où il n'y a pas d'eau dans le bassin, il y a des grenouilles qui se promènent un peu partout. Hein, voilà. Donc, Dieu donne la loi. C'est pour une raison absolument claire et précise. Il ne la donne pas comme ça parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Mais il sait ce que la loi va activer en nous, ce qu'elle va produire en nous. Alors je répète, peut-être vous l'entendez pour la quatrième fois ce mois, mais peu importe si je dois le dire 10 fois. Hein. Pourquoi la loi? Voilà, l'apôtre Paul pose la question. Mais pourquoi la loi? Elle est intervenue afin de démasquer le péché et de mettre en évidence sa puissance. Waouh! Il n'y a que la loi qui peut faire ça. Elle démasque le péché et elle met en évidence sa puissance. Romains 7, 7. Faudrait-il en conclure que la loi est péché et péché sont une seule et même chose? Certes non. Mais par la loi, j'ai appris à identifier le péché et à prendre conscience de ma culpabilité. Mais vous rendez compte le miracle qui se produit dans nos vies lorsque nous sommes rendus capables d'identifier et prendre conscience de ma culpabilité. C'est magnifique. C'est merveilleux. C'est le plus beau cadeau que Dieu pouvait nous faire. On voit toujours la loi, le péché, on se dit, ouh là là, pas trop près là. Ouh non, mais ça c'est quelque chose qui m'écrase, c'est quelque chose qui m'enferme, c'est quelque chose... Non! Dieu a donné la loi pour t'amener là où tu dois être. Prendre conscience de ton péché. De ta culpabilité. Moi, j'ai vu des gens, ça, ouais, ouais, j'ai péché dans ma vie. Ah oh, ouais, des petits péchés, des péchés mignons, des péchés véniels. Donc, c'est ces mots qu'on utilise qui ne veulent rien dire du tout. C'est pas ce que la Bible dit. Elle nous dit que nous sommes coupables à cause de notre état de péché. Parce que. Enfin, j'y viendrai tout à l'heure. Non, 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 mais une étape après l'autre. Romains 6, 20. Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, esclaves, les gens se croient libres. Un peu cher, mais pardon, ça ne se dit pas dans l'église. Les gens se croient libres, mais ils sont esclaves. Tous les jours, on voit des exemples à la télévision. Mon fils, que j'aimais de tout mon cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il est allé avec les copains, il est allé faire la noce, il est allé faire la bamboula. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Bon, ils ont trop bu, puis après, ben, ils ont fumé des joints, puis après, ben, ils ont pris des... Et voilà. Hein? Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous vous préoccupiez de la volonté de Dieu? Mais non. On ne se préoccupait pas de Dieu. On est des propres dieux. Vous serez comme des dieux, a dit Satan. D'accord? Ben, vous l'êtes maintenant. Ah ben, beau travail, hein? Ah, beau travail, hein? Félicitations, magnifique. Donc, qui c'est qui rigole là-bas? Non, c'est pas rigolé. On ne peut pas sauter à pieds joints par-dessus la loi. On ne peut pas le faire. On ne peut pas la contourner. Elle est un passage obligé, un rendez-vous de Dieu incontournable. Si je ne vis pas cette étape, en vérité, en profondeur, je ne vais pas bien vivre la grâce. Encore une fois, quelqu'un qui a été gracié, il doit tout à celui qui l'a gracié. Tout. Il va se, même si ça a été, si c'est pas un bon président, peu importe. Hein, suivez mon regard, mais c'est un, peu importe. Il m'a gracié. Je suis dehors. Je ne suis plus esclave de la prison. Je ne suis plus enfermé dans mes 4 mètres carrés. Oh, je respire. Je suis à l'air libre. Je peux faire ce que je veux, en quelque sorte aussi. Hein. Alors la question que je nous pose ce matin, et c'est sérieux, je ne joue pas sur les mots, je ne joue pas sur ce que peut être ou pas la vie chrétienne. J'essaye de me dire, mais qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu te dit ce matin? Et la question, est-ce que l'œuvre de la loi a pu te conduire jusqu'au verdict? Vous avez vu quand les procès commencent? Vous avez un accusé, vous avez des avocats. Et la partie, vous avez vu cette chose horrible, hein, cette jeune fille qui avait été tuée, la fille d'un pasteur, hein, entre autres. Hein. Moi, je l'ai bien connue, hein, Antoine Schlichter, il était à Mora à l'époque. Sa fille est tuée par un pervers, un fou. Hein, bon. Et l'audience commence. Quel est le but? C'est de définir les choses. Est-ce que cet homme est vraiment coupable? Et à un moment donné, on va arriver au verdict. Et le verdict est clair, coupable. Point à la ligne. Il ne faut rien dire. Pour vrai que le gars il peut se lever et dire « Non, non, moi je trouve que je ne suis pas coupable, vous me laissez sortir. » Il va finir sa vie en prison, le gars. Alors j'espère que quelqu'un un jour ira... Bon, enfin, lui... Bon. Donc Romains 6, 18. « L'acquittement qui donne la vie est devenu accessible à tous les hommes. Si je ne me suis pas senti coupable, je ne peux pas être condamné. » C'est clair ou bien? Est-ce que tu t'es senti coupable vis-à-vis de la loi de Dieu? Je pose la question générale, hein. J'entre pas dans vos vies pour savoir si oui ou non. Je vous pose juste la question pour savoir si vous n'avez pas zappé cette étape-là. Parce qu'on est des malins, nous, sans le savoir parfois. Donc je ne peux pas être acquitté si je ne me suis pas reconnu coupable. Et moi, j'aime à me rappeler de ce moment où, pour la première fois dans ma vie, après avoir entendu l'évangile, les jeunes qui me parlaient de Jésus, des témoignages et tout, entre dans ta chambre et là, dans le lieu secret, ton Père te voit et te le rend. Et je me souviendrai toute ma vie de ce moment où, saisi par la conviction de péché, j'ai pris conscience de ma situation. Et c'était une situation de perdition. Je n'avais aucune réponse à la problématique. Aucune. Mais déjà depuis loin, il y a des mots qui me venaient à l'oreille en disant « Jésus, Jésus, Jésus Alain, Jésus oh !» Mais je voulais vivre cette étape-là. Je voulais qu'elle soit imprégnée jusqu'au plus profond de moi-même. Pas un travail en superficie. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il fait quelque chose, il va dans les profondeurs. L'Esprit de Dieu connaît tout, même les profondeurs de Dieu. Donc tes petites profondeurs à toi ou à moi, hein, ce n'est pas un problème pour lui. Donc, le danger d'entrer dans la grâce sans avoir passé par la conviction de péché, sans que la loi ait eu le temps de faire son œuvre, puisqu'on parle de l'œuvre de la loi. Pas seulement te dire, il existe une loi. Les 10 commandements, oh, mais je les connais par cœur, 10. Mais ça, ce n'est pas l'œuvre de la loi. C'est connaître la loi, c'est dire, oui, il existe une loi. Mais est-ce qu'elle a pu faire son œuvre dans ma vie? Ça, c'est la question. Il y a un grand danger d'entrer dans la grâce sans avoir passé par la conviction de péché, sans avoir pris le temps, parce qu'on est toujours stressé, même dans la vie chrétienne des fois. On veut passer d'une étape à l'autre sans vraiment l'avoir bien vécu. Et puis après, on a des doutes. On se dit, ouh, m'attends, mais bon. Mais si Dieu a prévu cette étape-là, vis-la pleinement. Quitte à revenir en arrière. On se comprend? Je le dis à personne. Mais si c'est nécessaire, là où tu es, reviens à l'étape de la loi. Place-toi devant l'étape de la loi de Dieu. Et il va peut-être se passer quelque chose qui ne s'était pas encore produit dans ta vie. Même si tu es né dans une famille chrétienne, même si on t'a lu la Bible toute ta vie, même si tu es venu à l'église depuis des années et des années, peut-être que cette étape-là, tu l'as contournée, sans même le savoir, sans même en prendre conscience. Souvent, et quand je disais qu'on est, on est malin, mais c'est peut-être aussi une peur inavouée, on évite les zones d'inconfort. Vous avez déjà remarqué en tant que chrétien ? On évite les zones d'inconfort. Hein ? On évite peut-être de blesser l'autre. Vous parlez de la loi, ben je ne sais pas comment il va réagir. Donc on ne va pas parler de la loi. On va peut-être le blesser. Puis c'est plus tellement d'actualité, parler de la loi de Dieu. Hein. Et puis on va peut-être le choquer, on va peut-être le bloquer. Et déjà on est parti dans un processus qui est contraire à la voix de Dieu, qui nous dit, mais non, parle-lui de ça. Partage-lui ces choses. Pourquoi ? Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi il peut y avoir ce rendez-vous divin à un moment donné ? Parce qu'il est dit que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Romains 2,15. Si je ne lui parle pas de ça, il ne va pas y avoir cette connexion entre ce que Dieu veut révéler et ce qui est déjà au plus profond de lui-même. La loi est déjà dans le cœur de l'homme. Qui est indifférent quand on vole ?
Oh, ça ne fait rien, mais volons. Tuons.
Mentons. Mais non, quand je mens, avant de mentir, est-ce que vous êtes déjà senti bien avant de mentir ? Levez la main, ceux qui ont fait ça. Est-ce qu'avant de voler, vous êtes senti bien ? Oh, moi, je me souviens quand j'étais petit. Oh, il y avait une boîte comme ça, carrée, avec plein de pièces de 20 centimes. Ouh là 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 là. Puis comme on ne recevait pas d'argent de poche, il y avait une armoire à ouvrir. Alors moi, le soir, avant d'aller au lit, je me disais, comment je vais faire ? La clé, elle est là. Le papa, il n'est pas là pendant nanana. Et voilà, donc je prends. Combien de temps il te faut pour une poignée de pièces de 20 ? Pas long. Et le lendemain, c'est ce que je faisais. Puis j'allais au carrousel. Parce qu'on payait 20 centimes pour le carrousel à l'époque. Alors je faisais 10 tours de carrousel. Et les copains, ils croyaient que j'étais riche. Mais en fait, dans mon cœur, quand je rentrais, je me disais, peu cher, quand c'est que je vais me faire choper ? Ben, vous savez quand c'est que je me faisais choper ? À la fin du mois, quand ils faisaient les comptes. Parce que ça ne jouait pas à la caisse. Il manquait 2,40 francs. Alain, viens ici. Qu'est-ce que tu as fait ? Ben, papa, j'étais au carrousel. Oui, j'ai trouvé des pièces par terre. Tu sais, parce qu'au carrousel, il y a des enfants qui perdent des pièces. Enfin, voilà. Ouh, j'étais parti dans mon scénario et je pensais pouvoir me justifier. Je pensais pouvoir m'en sortir. Je comptais sur la bonté de mon papa. Tu parles, la bonté de mon papa, elle était sur le cucu après. Hein. Vous voyez comment les choses vont ? Donc, la loi est inscrite déjà dans le cœur de tous les pécheurs. Et quand je leur parle de ça, alors, je n'ai pas besoin de prendre mes grosses godasses de gendarme pour aller parler de la loi. Je peux le faire avec amour, je peux le faire avec bonté, je peux lui dire, tu serais d'accord qu'on lise les 10 commandements ensemble ? Oh ouais, pas de problème. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, pas mal. Ça t'est déjà arrivé comme à moi de mentir ? Ben ouais. Et vous l'entraînez là-dedans. Puis à un moment donné, il dit, puis qu'est-ce que tu penses de ça maintenant ? Il y a une loi. Est-ce que tu te sens coupable ? Ben là, il est embêté. Hein ? Parce que s'il dit non, il ment, donc il est coincé. Donc, c'est écrit dans son cœur. Donc au moment où vous lui parlez de ça, il y a une connexion qui se fait entre la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu et ce qui est dans son cœur. Voyez ? Et là, il se passe quelque chose. Quelque chose qui est de l'ordre du magnifique. Moi, j'ai vu des gens tomber à genoux, pleurer, être convaincus de péché. C'est la plus belle chose qui puisse vous arriver après votre mariage. Comprenez ça ? Alors maintenant, j'en viens justement au danger de contourner les étapes de Dieu. Et ça, nous devons prendre conscience. Je vais peut-être faire un petit peu plus vite parce que... Ce n'est pas à nous d'imposer le rythme. Et nous, dans nos églises évangéliques de type charismatique, où le Saint-Esprit agit, alléluia, il agit, on aurait tendance à vouloir un petit peu, c'est comme la chaîne de montage, vous savez. Ouh, il y a le pauvre pêcheur maintenant qui est sur le début de la chaîne de montage et cloc, 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 il est sauvé. Boum, ben tout va bien. Puis en plus, il vient le dimanche à l'église. Puis il donne ça, dit-moi ses offrandes. Magnifique, ça c'est un bon chrétien. Et là, je crois qu'on n'a vraiment rien compris. On n'a rien compris. C'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à travailler avec lui. Mais il est le patron. Il est le chef. C'est lui qui dit quand. C'est lui qui dit comment. C'est lui qui va faire. Hein? Paul disait, oh, mais nous, on creuse, on met des petites graines dans la terre, on arrose. Et c'est Dieu qui fait croître. C'est pas Paul qui fait croître. C'est pas Pierre, c'est pas Jacques, c'est pas Alain, c'est pas Denis, c'est pas Ritz. C'est Dieu qui fait croître. Donc, il est en contrôle de tout. Et c'est lui qui va donner le rythme. Mais à nous de nous assurer que les étapes sont respectées. Et je ne suis pas sûr qu'on respecte ces étapes. Moi, je confesse devant vous que parfois, j'ai voulu amener quelqu'un déjà presque à la plénitude, alors qu'il fallait lui mettre les langes et lui donner le biberon. Juste pour ma petite gloriole à moi, dire « Ah, t'as vu, j'ai amené quelqu'un au Seigneur. Hein? » Il y a 15, 20, 30 personnes de plus dans mon église. Pour faire quoi? Pour vivre la volonté de Dieu. Pour entrer dans la pensée de Dieu. Pour entrer dans les étapes que Dieu a en réserve pour nous. Alors je termine juste pour dire une chose. Qu'est-ce qui arrive quand on veut contourner la loi? Quand on ne la prend pas au sérieux? L'œuvre de la loi. Rappelez-vous, l'œuvre de la loi. Qu'est-ce qui risque de se passer? On va être obligé, et on le fait peut-être sans s'en rendre compte, de grossir à l'extrême l'amour de Dieu. On va dire aux gens, viens dans mon église ou bien convertis-toi parce que Dieu est bon, Dieu est saint, Dieu est plein d'amour. Ouais, il va laver tes péchés, tu verras, hop, là, quoi, une serpillière, c'est bon, pas de problème, ça va vite. Puis après, tu verras, tu auras des dons spirituels et puis tu vas comprendre la Bible. Oui, mais c'est vrai tout ça. C'est vrai tout ça. Mais pas maintenant. Pas encore. Parce que les gens viennent à l'église. Puis ils se disent, ah ben tiens, on m'a parlé d'un Dieu bon qui guérit toutes les maladies, qui efface tous les péchés, etc. etc. Et sans s'en rendre compte, on engendre des enfants capricieux. Dieu est le Dieu qui répond à tous mes besoins. On me l'a dit. Le pasteur, il m'a dit que Dieu répondait à tous mes besoins. À tous mes rêves. Hop. Voilà. À tous mes caprices. Hop. Puis après, ils viennent pendant un temps, puis ils se disent « Mais c'est pas ce qu'on m'a dit. Ça joue pas, là. Votre Dieu, bon, ben non. Je... » Et voilà. Et ils quittent la maison. Puis on s'étonne. On se dit mais pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'ils n'ont pas passé par la case de la conviction de péché. Là, je peux vous dire, quand tu as passé par là, et tu le sais, quand Dieu te donne un verre d'eau, c'est un verre d'eau. Et il a une valeur inestimable. Quand Dieu te donne un don spirituel, moi, Seigneur, un don, c'est pas un truc arraché, là. On n'est pas en train de... Non. Chaque chose que Dieu nous donne... « Waouh, ça fait partie maintenant de ma vie. » Et je rencontre, et ça fait partie aussi de la mentalité de ce monde, on veut toujours plus, mais on ne regarde pas tout ce qu'on a reçu. On oublie ce qu'on a reçu. On ne se réjouit pas de ce qu'on a reçu, on se réjouit de ce qu'on va recevoir. Puis comme on ne reçoit pas, ben on est comme Caïn, on endurcit son cœur. Mais c'est quoi pour un Dieu ça? On m'a promis que, puis il ne le fait pas. Oh non, moi cette église, je vais en chercher une autre. Oula, ça bouge, hein, et pam, pam, on y va, et puis on impose les mains, tous les malades sont guéris, hein, mais tu peux chercher. Hein. Mais c'est la réalité. On devient capricieux. Les anciens, vous connaissez certainement ce chant qui nous dit « Quand les est bien un fait de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, on verra en adorant. » Combien le nombre en est grand. Vous avez déjà regardé derrière vous? Des tonnes de cadeaux. On y viendra quand on sera dans la grâce. Hein? On parlera de tous ces cadeaux. Hein? Nos petits sapins de Noël, c'est rien à côté. Hein? Quand on voit tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a donné déjà, on devrait être continuellement dans l'action de grâce. On ne devrait pas être des chrétiens là qui sont tout le temps en train de pleurer sur ce que Dieu n'a pas donné. Mais c'est une honte. Mais regarde ce que Dieu t'a donné déjà. Et tu ne peux pas te tenir sur ta chaise en restant droit comme un soldat. Waouh, Seigneur, merci. Hein? Ça te fait entrer dans l'action de grâce et dans la reconnaissance. Alors, cette fois, je termine. Vous avez un peu compris ce que je voulais dire? Parce que pour moi, c'est un fouillis. Quand j'ai commencé à préparer ça, je ne savais plus où j'en étais. J'étais assis, mais ils ne vont rien comprendre du tout. Mais rien du tout. Amen, le Saint-Esprit est là. Voilà, d'accord? Voilà. Donc, si on respecte ces étapes, et c'est pour ça que je disais même à des chrétiens de 40 ou 50 ans en arrière, peu importe, si à un moment donné, le Saint-Esprit te dit, viens voir encore un petit moment avec moi là. Viens voir. On va s'arrêter devant les tables de la loi. Ne résiste pas. Ça ne remet pas en question ton salut. Ça ne remet pas en question que Dieu t'aime. Mais peut-être que tu vas vivre ce que tu n'as jamais vécu. Et ta vie chrétienne va reprendre une nouvelle... Un bol d'air. On est fermé déjà de nouveau là. Oh là 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 là. Boum. Voilà. Bol d'air. Un bol de fer. Ouais, c'est vrai. Bol d'eau. Ben oui, mais c'est aussi un bol d'eau. C'est un renouveau. Il n'y a pas de moment plus merveilleux que d'être convaincu de péché. Parce qu'alors là, je peux vous dire que vous êtes un candidat à la grâce. Le Saint-Esprit n'attend plus que le moment là. C'est bon, t'as compris? Waouh, maintenant on va entrer sous le régime de la grâce. Et là, je peux vous dire que votre vie chrétienne, elle ira crescendo. C'est pas possible autrement. C'est pas possible. Moi, je ne crois pas à ces vies chrétiennes qui vont de haut en bas. Je crois à des moments difficiles dans la vie chrétienne. Si on est persécuté, on ne va pas faire les malins. Si on vit des choses graves dans la famille, on ne fait pas les malins. Si on vit des moments difficiles à notre place de travail, on ne fait pas les malins. Mais la grâce de Dieu sera là. Elle va nous transporter jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, on va mettre le deuxième dia. On va commencer de voir au loin sortir de la brume. La brume? Brume, brume? Brume. Ouh, vous êtes dans la brume là-bas. On va voir sortir de la brume de nos vies la croix. Tout se joue là. Tout se joue là. Mais ça ne peut pas se jouer là s'il n'y a pas eu l'étape précédente. Et si tu as déjà dépassé la croix, et puis que ça ne joue pas vraiment dans ta vie, reviens en arrière, avant la croix, à l'étape précédente. Et le Saint-Esprit le fera. Parce qu'il est dit, et Jésus l'a dit, le Saint-Esprit vous sera envoyé pour... Voilà, ça, vous avez entendu? Ce n'est pas une critique que je fais. Le Saint-Esprit vous a été envoyé pour vous consoler. Bien sûr qu'il va vous consoler, mais qu'est-ce qu'il fait avant? Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Après, il va pouvoir vous consoler. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit vous console si vous n'avez pas été convaincu de péché? Il ne fait pas une œuvre contraire à ce qu'il est. Il fait ça. Il ne va pas faire autre chose. C'est nous qui faisons les autres choses. Il dit, oh, mais non, viens mon petit gars, allez dans l'église, c'est super, on y va, viens, tu vois, tout est, la Sainte Seine, tout est là pour toi, tout est préparé. Puis le gars, il se dit, ouais, bon, ben, on y va. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Alors voilà, peut-être que j'ai un petit peu... Mais vous savez, avant de vous le dire, moi j'étais aussi visité. Hein. Je n'ai pas le malin à mon bureau, moi. Hein. Je me suis arrêté quelquefois en disant, mais Seigneur, c'est bien ça que tu veux que je dise, hein. Donc tout cela va contribuer à nous rendre capables de dominer le péché. Si je passe par les étapes que Dieu a prévues, je vais dominer le péché. Et je peux vous le dire, après 41 ans, on ne sait jamais ce qui arrivera demain. Mais moi, je sais que pendant 41 années, Dieu m'a appris à dominer le péché. Je ne dis pas pour me glorifier, pas du tout. Je dis juste pour dire, oui, la parole de Dieu est vraie. Et Dieu est un Dieu de justice. Et quand il fait les choses, il les fait bien. Et il les fait jusqu'au bout. Amen. Alors, je termine avec cette question. Est-ce que la loi a pu faire son œuvre en toi, en moi? Rien que ça. Est-ce qu'elle a pu démasquer le péché? Est-ce qu'elle a pu mettre en évidence sa puissance? Est-ce qu'elle a pu mettre en évidence mes transgressions? Est-ce qu'elle a pu me révéler mon état, ma nature de péché? Et est-ce que je lui ai laissé le temps de me préparer à aller à la rencontre de la grâce? On va s'arrêter là, prions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin, te bénir. Parce que tu nous as tant aimés, Seigneur. Tu nous as tant aimés, Seigneur. Que tu as préparé un chemin de vie pour nous. Un chemin de vie qui commence par l'amour. L'amour de notre vieille nature de péché. Tu as tout prévu le long de ce processus. Étape après étape. Tu t'investis dans chacune des étapes. Ce n'est pas à moi d'inventer ces étapes. Ce n'est pas à moi d'inventer des attitudes, des émotions. Non. C'est toi qui viens, qui sais toucher nos cœurs, qui sais nous visiter, pas seulement en surface, mais en profondeur, jusqu'au plus profond de notre être. C'est toi qui sais susciter en nous cette prise de conscience. Quelle gloire, Seigneur. Tu aurais pu nous laisser pour l'éternité dans notre besier. Tu aurais pu nous laisser pour l'éternité dans notre cécité, dans notre aveuglement. Non, tu as choisi de nous aimer. Merci, Seigneur, pour ce chemin. Merci pour chacune de ces étapes. Et je te confie ma vie, je te confie la vie de chacun ici. Ce n'est pas à moi d'être le juge, heureusement. Ce n'est pas à moi de donner le verdict, heureusement. C'est à toi, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Merci de faire ton œuvre. Merci de nous aider à ne pas résister à ton œuvre, mais à l'accueillir, mais à bras ouverts aussi. Parce que c'est elle qui va nous amener à la vie. À la grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Prenez le temps. Même si vous avez 40 ans de vie chrétienne, prenez le temps. Réfléchissez un peu à ce que le Seigneur a partagé ces derniers dimanches. Et on va progresser tous ensemble. Amen.